Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur nous parle de deux façons de prier. On peut prier comme un pharisien ou on peut prier comme un publicain. Le pharisien, nous dit l'évangile, se présente plein d'orgueil, plein de lui-même, devant l'autel de notre Seigneur et il lui dit: je suis différent des autres hommes. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai encore fait ça, tout vient de moi. Au contraire, l'autre, le publicain, celui qui est humble en esprit, s'agenouille devant notre Seigneur Jésus-Christ et lui dit: Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans votre maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Je suis le dernier des derniers, pardonnez-moi tous mes péchés. Et le bon Dieu explique que le premier va s'en sortir, se sortir de l'église sans être pardonné, alors que le deuxième sera pardonné. Et il est facile d'utiliser, mes bien chers frères, cette parabole donc du publicain et du pharisien pour nous rappeler qu'il y a deux sortes de catholiques aujourd'hui. Le catholique du jour et le catholique de la nuit. Il y a deux sortes de chrétiens, ceux qui sont chrétiens simplement le dimanche de 10h à 11h30 et qui dans la vie de tous les jours vivent comme des païens. Ou au contraire, ceux qui sont catholiques toute la journée, parce qu'ils savent qu'ils sont sous le regard du bon Dieu et qu'ils doivent garder l'état de grâce toute la journée. C'est la différence qu'il y a entre les catholiques mondains et les catholiques qui suivent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La différence qu'il y a entre les catholiques libéraux et les catholiques qui, au contraire, veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. La différence qu'il y a entre tous les catholiques qui ont mis notre Seigneur Jésus-Christ au centre de leur vie et, au contraire, les catholiques du monde moderne qui ont mis l'homme au centre de leur vie. La différence qu'il y a entre les catholiques qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, qui suivent la loi divine, qui suivent la loi des 10 commandements de Dieu, et au contraire, les catholiques modernes qui pensent qu'on est là pour gagner le paradis par les droits de l'homme. On voit très bien, mes bien chers amis, mes bien chers frères, qu'il y a deux mondes. C'est ce que dit saint Augustin, il y a deux royaumes, si vous voulez, deux sociétés. Soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ, soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ et on méprise l'homme, soit on adore l'homme et on méprise notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a redit à plusieurs reprises. Cet évangile explique bien ce que notre Seigneur va réexpliquer sous d'autres formes, bien souvent à ses apôtres. Et ces points sur lesquels il faut méditer très souvent sont absolument fondamentaux pour nous. Soit on suit notre Seigneur, soit on suit le monde. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois, nous dit notre Seigneur. Si on adore le premier, on haïra le second, et si on haït le premier, on adorera le second. Dans quelques temps, si Dieu veut, à la fin de l'année, nous aurons au-dessus de l'autel un magnifique vitrail qui est déjà en préparation, qui représentera, puisque c'est la chapelle Saint-Rémy, le baptême de Clovis par Saint-Rémy. Représentera Saint-Rémy qui sort des fonds baptismaux recueillis par sa femme, Sainte Clotilde, et l'évêque qui l'a préparé à recevoir le baptême, Saint-Rémy, un des plus grands évêques de France, avec toute l'armée des Francs en dessous, qui se prépare aussi à recevoir le baptême. Et qu'est-ce qu'a dit Saint-Rémy ce jour-là à Clovis, en ce baptême de la France catholique, au mois de décembre, le jour de la fête de Noël de 496, qu'est-ce qu'il lui a dit? Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Adore ce que tu as brûlé, c'est-à-dire adore notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, et brûle ce que tu as adoré, c'est-à-dire brûle toutes les choses mondaines, toutes les choses qui viennent de la terre. La première condition, mes bien chers frères, pour se mettre sur le chemin qui mène au ciel, c'est d'arrêter d'adorer les choses de ce monde. C'est d'arrêter de considérer que les choses de ce monde sont les choses les plus importantes. On dit que l'homme ne peut pas vivre sans avoir une idole. Et c'est très vrai. On est obligé d'adorer quelqu'un. Parce que la nature a horreur du vide. Soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ et on le suit. On suit notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, on suit la loi qu'il nous a donnée, la loi des 10 commandements de Dieu. Soit on refuse notre Seigneur Jésus-Christ, et à la place d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, notre âme ira adorer le monde. Ira adorer le démon, ses pompes et ses œuvres. C'est la grande méditation fondamentale que les hommes qui viennent faire les exercices spirituels la semaine dernière ont, j'espère, bien compris. Deux étendards, deux armées. Soit l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, soit l'armée du démon. Soit l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ qui suit sur son étendard les trois paroles des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Soit au contraire, l'étendard du démon avec les trois mots liberté, égalité, fraternité. Soit notre Seigneur Jésus-Christ est au centre de notre vie et toute notre vie va tourner autour de lui. Soit notre Seigneur Jésus-Christ est mis dehors. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est mis dehors, le démon va venir prendre la place et va exiger que toute notre vie tourne autour de lui. Soit nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ avec les trois dons que va nous donner immédiatement notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir l'humilité, à savoir la pauvreté, à savoir le mépris des gens du monde. Soit au contraire, nous suivons le monde avec les dons que va donner le monde, à savoir les richesses, les honneurs, et l'orgueil. Et on voit bien, mes bien chers frères, surtout aujourd'hui, je pense que les choses deviennent de plus en plus claires. Il y a deux églises. Soit il y a l'église qui adore notre Seigneur Jésus-Christ et qui passe notre Seigneur Jésus-Christ au centre de tout, donc au centre de l'autel. Soit au contraire, il y a l'église du monde qui a mis notre Seigneur Jésus-Christ dehors et qui, à la place d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, adore le monde. Soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ et la fin de notre vie devient évidemment l'idée même de participer à la vie divine, d'un jour d'être au ciel, le paradis, pour jouir de notre Seigneur Jésus-Christ pour toute l'éternité. Soit nous adorons l'homme, et à ce moment nous savons que la vie s'arrête au cimetière, au trou du cimetière, et nous essayons de jouir ici-bas de tous les plaisirs possibles, parce que nous savons qu'après le trou du cimetière, il n'y aura plus rien pour nous. Quelle folie, mes bien chers frères. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'explique très bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, celui qui suit le monde, le pharisien qui est plein de lui-même, plein d'orgueil, plein de tous les dons du monde, eh bien celui-là va sortir de l'église sans avoir été pardonné. Alors qu'au contraire, celui qui s'humilie devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'humilie devant sa croix, celui-là va être pardonné. Toute l'église catholique, mes bien chers frères, est fondée sur la vertu d'humilité. On dit que c'est le terreau de toutes les vertus. C'est sur ce terreau, dans ce terreau, que le bon Dieu va aller planter toutes les graines de foi, d'espérance et de charité qui vont ne pouvoir pousser que si elles sont plantées dans l'humilité. Au contraire, dans le monde moderne, le terreau, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est dur comme un roc. Et donc, on ne peut rien planter dans cet orgueil parce que justement, il n'y a pas de terre. Rappelez-vous la parabole du semeur, et quand le grain tombe dans le bon champ, dans la bonne terre, il va donner du fruit à 50, à 60, à 80, à 100% parfois. Si au contraire la graine tombe sur le rocher de l'orgueil, sur le bord du chemin, il n'y a que des pierres, sans humidité, sans terre pour pouvoir faire fructifier la graine, eh bien rien ne va sortir de cette graine. Et cette graine, elle va pouvoir donner que des choses purement humaines. Mes bien chers frères, comme il est important, je pense, de se rappeler toutes ces choses élémentaires. Il y a deux étendards et ces deux étendards sont absolument incompatibles. Soit le monde, soit notre Seigneur Jésus. Encore une fois, soit la liberté, l'égalité, la fraternité du monde moderne, soit l'esprit des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Depuis les abominations commises à Nice et récemment, on voit partout maintenant sur les panneaux d'autoroute, entre autres, les trois phrases de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. On essaie de nous asséner à longueur de journée que c'est avec ces trois phrases, la liberté, l'égalité, la fraternité, que nous pouvons enrayer le mal. Et c'est pas avec ces trois phrases, mes bien chers frères, qu'on va enrayer le mal. C'est avec trois autres phrases, on devrait mettre sur ces panneaux, pauvreté, chasteté, obéissance. On ne va pas au ciel, mes bien chers frères, avec la liberté révolutionnaire. On ne va pas au ciel avec l'égalité révolutionnaire. On ne va pas au ciel avec la fraternité révolutionnaire. On va au ciel avec la liberté catholique. On va au ciel avec la fraternité catholique. On va au ciel avec l'égalité catholique. Quelles sont les différences entre ces choses? Elles sont élémentaires, il faut bien comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que la liberté révolutionnaire? Le droit de faire ce que je veux. L'homme devient Dieu, et puisqu'il est Dieu, il a le droit de choisir ses propres commandements. Il a le droit de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Rappelez-vous les mensonges du démon à Adam et Ève. Pour pouvoir les rouler dans la farine, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous mangez du fruit défendu, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Et les pères de l'Église expliquent que cette pomme, ce fruit défendu, qu'ils ont dévoré contre l'ordre formel du bon Dieu, ce fruit défendu, c'était le fruit de la liberté. Et ils ont eu la liberté. Avec la liberté, c'est la mort qui est arrivée. Ils ont été exclus du paradis, ils ont tout perdu. Il a fallu pour eux attendre pendant 6 ou 7 000 ans avant que notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, vienne pour rattraper les bêtises précisément commises par Adam et Ève. Au contraire, pour un catholique, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est simplement le droit, le pouvoir que nous avons de choisir parmi les différents moyens qui sont à notre disposition afin d'atteindre une fin qui nous est imposée. Que ça nous plaise ou non, mais bien cher frère, on va tous mourir un jour. Que ça nous plaise ou non, on a tous une âme à sauver. Que ça nous plaise ou non, il y a un créateur avec des créatures, donc les créatures ont des droits, les créatures ont des devoirs. C'est absolument évident. Donc notre liberté, c'est le pouvoir que nous avons de nous mouvoir dans le bien. Voilà la liberté. La liberté ne consiste pas pour nous à faire ce que nous voulons. La liberté consiste à faire ce que le bon Dieu veut, librement. Certes, nous avons tous une liberté psychologique, c'est-à-dire le libre arbitre. Certes, nous avons tous une liberté morale, à savoir l'application du libre arbitre dans la situation concrète dans laquelle nous vivons. Et nous avons le pouvoir d'utiliser notre libre arbitre ou pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ ou pour le rejeter. Mais il y a aussi une liberté d'action, une liberté physique. Est-ce que nous avons le droit d'offenser le bon Dieu sous prétexte que nous avons le libre arbitre? Certes, l'homme peut se révolter contre Dieu. C'est ce qu'il fait depuis des siècles et des siècles. Regardez les conséquences. Regardez en France les conséquences de la révolte contre Dieu. On les voit tous les jours, il suffit d'ouvrir les yeux. France, une église baptisée par Clovis à Reims en 496. Qu'est-ce qu'est devenue la France? Une gigantesque poubelle. Pourquoi? Parce que justement, le bon Dieu a été mis dehors. Voilà le résultat, mes chers frères, de la liberté révolutionnaire. Et l'égalité révolutionnaire, quelle est-elle? Que tous les hommes sont égaux. Au contraire, l'égalité catholique, c'est de nous rappeler que certes, nous avons tous été créés par Dieu, et donc nous aurons tous à rendre des comptes à Dieu, et de ce côté-là, nous sommes tous égaux. Mais l'égalité catholique consiste justement à nous rappeler que même si nous sommes tous égaux devant Dieu, en sens que nous sommes tous créés par lui, nous avons tous été créés avec une âme différente. Rappelez-vous la parabole des talents. Il y en a qui ont reçu 2 talents, il y en a qui ont reçu 1 talent, il y en a qui ont reçu 10 talents. Et ils doivent rendre en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et nous, catholiques, avons beaucoup plus reçu que les autres parce que nous avons reçu la véritable religion. C'est évident que nous devons donc rendre davantage à notre Seigneur Jésus-Christ que le pauvre gars qui n'a jamais rien reçu de sa famille, jamais rien reçu de sa descendance, de ses propres parents, pardon. Donc l'égalité n'existe pas devant Dieu. Dieu a créé tous les hommes différents. Chaque homme est différent. Je me rappelle une des phrases que nous avait souvent dites Monseigneur Lefebvre, l'évêque qui m'a ordonné prêtre en 1979. Il me disait, il nous prévenait dans la retraite de préparation au sacerdoce, à partir du moment où vous serez prêtre, vous n'aurez plus jamais le droit de prétendre que vous êtes un homme comme les autres hommes. Parce que vous serez différent, vous avez un caractère baptiste, un caractère de l'ordre sacerdotal qui fera de vous des êtres viscéralement différents des autres. C'est la même chose pour vous aussi, mes bien chers frères. Quelle est la différence entre le païen lambda qui circule dans la rue et vous, mes chers frères? Nous avons le caractère du baptême. Et ce caractère du baptême, par lequel justement notre Seigneur Jésus-Christ a imprimé son titre de propriété sur nos âmes, ce titre de baptême fait de nous des êtres viscéralement, substantiellement différents de tous les autres hommes. Nous serons jugés différemment justement à cause de ce titre de baptême qui nous ouvre les portes du ciel si nous sommes en état de grâce au jour de notre mort, mais qui entraînera pour nous malheureusement des châtiments encore plus graves si nous avons été infidèles à ce titre de baptême. Un catholique en enfer doit souffrir beaucoup plus qu'un païen en enfer, c'est absolument évident. Enfin, nous n'avons pas, mes bien chers frères, la fraternité révolutionnaire. La fraternité révolutionnaire prétend que tous les hommes sont frères. La fraternité catholique, au contraire, n'a rien à voir avec celle-là. La fraternité catholique nous rappelle que nous sommes tous frères dans la mesure où nous acceptons un Père commun. Quand nous avons un Père commun, tous les enfants du Père commun sont frères et sœurs. Ce Père commun, qui est-il? Ce Père commun, mes bien chers frères, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc nous sommes tous frères avec les catholiques, tous frères avec ceux qui ont les mêmes, je dirais, la même conviction que nous sommes sur la terre pour louer, honorer, servir le bon Dieu et sauver notre âme. Mais encore une fois, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a envoyé les disciples partir en mission, les a envoyés prêcher. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez, baptisez, prêchez. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc les apôtres sont partis dans le monde entier pour justement obtenir la grâce du bon Dieu pour tous ces païens qui sont autour d'eux, qui étaient autour d'eux à l'époque, pour qu'eux aussi puissent recevoir le baptême. Et recevant le baptême, devenir frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ par adoption, enfants adoptifs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Nous ne serons pas sauvés par la trilogie révolutionnaire. Nous ne serons jamais sauvés par la liberté, l'égalité et la fraternité révolutionnaire. Nous serons sauvés par la fraternité et l'égalité et la liberté, l'égalité et la fraternité catholique, la vraie. Encore une fois, si nous savons nous mettre à genoux auprès, au pied du bon Dieu, comme le publicain d'évangile d'aujourd'hui l'a fait, et nous sommes capables de dire au bon Dieu, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, j'ai besoin de votre aide. Le bon Dieu à ce moment-là nous donnera la grâce dont nous avons besoin, mes bien chers frères, pour aller nous mettre à genoux devant le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre, et lui dire, Seigneur, pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché. Et le bon Dieu, s'il voit justement l'accusation, s'il entend l'accusation, s'il voit la contrition dans cette âme, il va rendre tout de suite la paix à cette âme, la beauté à cette âme, en lui disant, allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Et un païen est quelqu'un qui se met à genoux avec une âme toute noircie par le péché, après une bonne confession, se relève avec une âme resplendissante dans la grâce du bon Dieu. Ah, mes bien chers frères, nous allons demander toutes ces grâces, de comprendre que par nous-mêmes, nous ne sommes absolument rien. Nous ne pouvons rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, il ne peut y avoir de salut. Parce que personne ne peut être sauvé sans utiliser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Soit nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, soit nous adorons l'homme. Alors passons, mes bien chers frères, passons par notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel nous ne pouvons être sauvés, nous a été donné par elle. C'est elle qui est l'intermédiaire, le pont par lequel notre Seigneur Jésus-Christ est venu chez nous. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pris cette humanité qu'il a reçue du Saint très pur, dans le Saint très pur de notre Sainte Vierge Marie, il n'aurait pas pu mourir pour nous sur la croix, parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. Donc Dieu, qui a un tel amour pour nous, a voulu prendre notre nature. Il a voulu devenir comme nous en tout, sauf le péché. Afin justement pour pouvoir, par cette mort sur la croix le vendredi saint, nous montrait cet axe, ce degré extraordinaire de miséricorde, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors si nous savons nous mettre au pied de la croix, au pied de l'autel, au pied de la Sainte Messe, Et si nous savons demander avec humilité les grâces dont nous avons besoin, le bon Dieu nous donnera ces grâces, mes chers frères. Il nous donnera la foi, l'espérance, la charité. Il nous donnera les vertus cardinales. Il nous donnera toutes ces vertus absolument essentielles, la prudence, la justice, la force, la tempérance et toutes ces grandes vertus, toutes fondées sur la vertu d'humilité. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir pour chacun d'entre nous cette grâce de l'humilité, afin qu'ayant la grâce de l'humilité, nous puissions avoir la grâce de la fidélité et un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.